du Rhin, pam. Y'a déjà des trains, pam. Votre projet inutile, pam, pam. Est assassin de tous nos biens communs et sans remords aucun. Souveraineté paysanne, relocalisation, nous on manque pas d'idées dans cette situation mortifère dans laquelle tout droit vous nous menez. On
doit le calme, innovation, un trait d'union entre nations.
Complètement bidon.
Votre vieux monde est en train de s'écrouler. Comme un ex-toxique, vous dégagez et croyez bien vous êtes organisé.
Faire le peu, nous dissoudre, soulèvement déjà commencé. La terre n'est pas à vous, cassez-vous, vous êtes aussi. Les criminels, c'est vous, cassez-vous, vous êtes aussi. Cassez-vous, vous êtes aussi. Pas de tête dans les Alpes, cassez-vous, vous êtes toxique.
On a découvert que le projet ça a complètement, c'était complètement faux ce qu'ils essayaient de faire. C'était d'ailleurs quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Le collectif de Turin a demandé et a reçu les documents de ce projet. Qui a démontré que, suite à un autre élargissement qui a eu lieu en 2020, la population des papillons qui étaient là-bas près des moulins a été complètement exterminée. Et donc, du coup, il n'y avait pas de possibilité de déplacer cette population parce que, déjà, elle n'y était plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a seulement pu découvrir récemment en regardant les documents parce que, tout simplement, ils ne voulaient pas faire sortir cette nouvelle après avoir dépensé beaucoup d'argent sur ce projet de greenwashing. Et juste derrière, il y a le bois, la Derosse, dont vous avez entendu parler, qui est occupé, qui est juste là derrière la barrière. Et quand on est arrivé, on a vu l'autre espace occupé avec où il y a le camping. Et là, pour ce soir, les camarades du centre social proposent qu'on se pose, qu'on aille manger tranquillement. Ils vont nous offrir une bière ou un verre pour nous détendre un peu.
Thank you.
Et ils sont un peu désolés parce qu'en fait, on aurait dû attendre un peu à l'entrée. Ils avaient prévu un autre accueil là-bas. Mais vu qu'on est arrivé un peu vite, voilà, c'est pour ça que... On est trop rapide. On est trop rapide. Mais bon, est-ce que vous voulez qu'on reparte?
On fait un petit tour de l'humour.
Théâtre, théâtre.
Et ensuite, quand on sera prêt, vers 21h, on pourra commencer. Il y a une petite discussion prévue sur des sujets qui nous concernent, l'extractivisme, l'eau, etc. On va passer à une discussion un peu sérieuse d'emblée pour se mettre dans le bain. Et voilà, ce sera un peu la soirée. Et pour les espaces de camping, il y a les espaces de camping là-bas pour
ah putain, je l'ai roulé.
Donc peut-être on fait ça et il y a pendant la discussion, faut voir comment on s'organise. C'est vraiment à 4 minutes à pied le camping. Il y a les douches, il y a les sanitaires, il y a tout ce qu'il faut là-bas.
Les aspects pratico-pratiques, si vous avez les portes et les talkie-walkie, rendez-les à qui vous savez. Également, si vous pouvez évacuer vos sacs du même taux et les mettre dans le centre social, avec le canot puisse être libéré le mieux possible.
Les sacs, c'est quoi le rapport avec le sac et le...
Non, il y a déjà tout le sac.
Ah, non, canot, d'accord.
Dans notre zone, les gens ont trouvé énormément de sens dans ce combat, c'était une évidence. Et donc, depuis 3 ans maintenant, à travers le mode d'action qu'on a déployé, on a réussi à créer un rapport de force très intéressant autour des mégabassines, ce qui nous a permis de créer un espace de discussion où il y a énormément de luttes autour de l'eau et pour le partage de l'eau, un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi au-delà, qui sont pu se retrouver dans le Marais Poitevin, et on a pu échanger autour de ces questions-là.
Quindi non avrò molto tempo per appunto entrare nel dettaglio del perché c'è questo link, però appunto quello che mi interessava dire è nel momento in cui abbiamo appunto messo in atto questo collegamento, le persone hanno è risuonato subito con le persone e quindi nel giro di 3 anni siamo arrivati a costruire veramente un movimento molto forte e in questo modo anche un rapporto di forza rispetto alla lotta contro i megapaccini che è molto forte e interessante e che ha permesso appunto per esempio con Vadelò la costruzione di uno spazio di discussione tra tutte le varie e diverse lotte che mettono al centro appunto il tema dell'acqua.
E donc depuis cette lutte, en fait, c'est venu aussi irriguer plein d'autres luttes. Il y a plein de combats un peu partout en France qui ont émergé autour de cette question-là ou qui ont pris cet angle d'attaque pour critiquer et cibler des projets.
E quindi appunto sono state messe insieme e in dialogo tutte le lotte per l'acqua che ci sono in giro per tutta la Francia.
E au fil des manifestations, on a aussi organisé là dernièrement encore cet été, en juillet dernier, plusieurs mobilisations internationales. Donc vous avez entendu sans doute parler de Sainte-Soline l'année dernière, qui a eu des affrontements assez violents. On a aussi organisé une deuxième mobilisation internationale donc en juillet dernier, qui ont fédéré, et on a, lors de ces manifestations, beaucoup de gens qui sont venus de partout en France et de l'international pour venir nous soutenir à ces occasions. Et je crois que je reconnais un certain nombre de personnes ici dans la salle qui étaient venues nous soutenir. Et ça, c'était vraiment un appui, un soutien très précieux pour nous. Et donc, de là est née notamment cette idée de traverser des lignes de l'eau pour venir rendre l'appareil, marquer aussi un geste de réciprocité et de remerciement.
Con questa connessione sono nate anche tutte le mobilitazioni internazionali che ci sono state. C'è stata una a marzo dell'anno scorso che, di cui forse avete sentito parlare, che è quella di Sansolin, che è diventata anche forse celebre per la violenza della risposta della polizia, ma appunto ce n'è stata anche un'altra lo scorso luglio, che ha visto appunto la partecipazione di moltissimi comitati in realtà del territorio francese, ma non solo, appunto da tutta Europa e da tutto il mondo. E infatti diceva che riconosce i visi di molte persone che ha visto, che in questa sala sono presenti e che ha visto nelle mobilitazioni internazionali. E quindi appunto da questo sostegno che c'è stato nei confronti appunto delle lotte per l'acqua in Francia è partita l'idea del convoglio dell'acqua per restituire appunto questo sostegno e questa solidarietà.
Et donc on a imaginé cette grande traversée, cette première grande traversée du Marais Poitevin, qui est baptisée aussi la Venise verte parce qu'il y a plein de canaux, et jusqu'à la lagune de Venise. Et sur l'étape, en chemin faisant, on a fait plein d'étapes, plusieurs étapes, on a fait 5 étapes plus exactement, pour venir rencontrer, renforcer les liens avec un certain nombre de collectifs qui se battent, de collectifs d'habitants qui se battent aussi contre des projets d'accaparement de l'eau ou simplement en réaction à des pollutions de leurs rivières et leurs territoires.
E quindi appunto abbiamo costruito questo convoi de l'eau, questo convoglio che ha fatto appunto 5 tappe partendo da Marais-Parvin e che ha messo insieme appunto diversi collettivi, diverse realtà che si occupano di appunto delle lotte per contro l'accaparramento da una parte e contro l'inquinamento dall'altra dell'acqua.
E c'était vraiment très important pour nous de montrer que ce combat pour l'eau, pour le partage de l'eau, c'est vraiment un combat qui se mène et qui doit se mener au-delà des frontières et qu'on doit construire quelque chose qui est quelque chose de l'ordre d'une internationale de l'eau.
E quindi appunto vorremmo semplicemente ribadire che le lotte per diciamo per riappropriarsi delle risorse idriche devono assolutamente essere devono portarsi al di là delle frontiere, perché appunto soltanto così vinceremo e soprattutto bisogna costruire una internazionale delle lotte per l'acqua.
Je vais laisser la parole à deux camarades qui font partie de collectifs locaux qui faisaient partie de cette traversée et qui vont raconter aussi un peu pourquoi leurs luttes sont concernées par l'eau.
Quindi appunto passo la parola a due compagni che hanno partecipato alla caravana dell'acqua e che fanno parte di due comitati locali e che appunto racconteranno un pochino della loro esperienza nei loro territori.
Salve a tutti, salve a tutte. Io faccio parte del collettivo Stop Nico, è un collettivo che è a Grenoble, nelle Alpi francesi, e che lotta contro lo sviluppo le estensioni piuttosto di due industrie della microelettronica, la ST Microelectronics, che è una multinazionale franco-italiana che magari conoscete, un'industria molto importante. Siamo un collettivo che è nato nel 2022 dopo un'estate dove c'era una grande siccità nella nostra città di Grenoble delle Alpi, e in questo periodo di grande siccità il presidente francese è venuto a annunciare l'estensione di questa fabbrica per raddoppiare la produzione di microchip. Il microchip è quello che è alla base di tutti i sistemi elettronici, ne avete mostrato nei telefoni, nelle macchine, nell'elettrice, eccetera. E quindi il collettivo è nato perché questa industria della microelettronica utilizza tantissima acqua corrente. Per darvi un'idea, dopo l'estensione la ST consumerà più o meno un megabacino di Sansolin tutti i 22 giorni, il che è enorme, e parliamo di acqua corrente. E quindi noi come collettivo volevamo ricentrare il dibattito che c'è sull'ecologia, perché oggi sappiamo tutti che c'è una crisi climatica, che il nostro modo di vita non è compatibile con i limiti del pianeta, ma nello stesso tempo c'è questo discorso molto forte sul fatto che lo sviluppo tecnologico andrebbe a salvarci del disastro ecologico. E noi volevamo mostrare che dietro le ingiustizie socio-climatiche e il cambiamento climatico ci sono dei responsabili, e i responsabili principali sono le industrie e un settore in particolare che è il settore del digitale. Quindi vi faccio vedere la nostra bandiera. Come vedete è scritto de l'eau pas de plus, il che significa acqua non ci. L'acqua perché è qualcosa di molto concreto, quando si parla di acqua, del fatto che c'è la siccità, che l'acqua ce n'è meno, fa paura a tutti, ci sentiamo tutti coinvolti dalla questione dell'acqua. E quindi partendo di qualcosa di molto concreto, noi abbiamo mostrato che la materialità dell'industria del digitale, spesso si va detto che il digitale è qualcosa che è dematerializzato, in realtà no, c'è consumo eccessivo di acqua, ma c'è anche, scusate, il mio italiano non è perfetto, c'è anche il problema delle miniere, dell'estrattivismo che fa il gioco dello sfruttamento del sud, dal nord, e quindi la vera domanda che volevamo fare è questo sviluppo del digitale, del mondo oltrepenesso, volevamo sapere che ci sono dei limiti, che non è compatibile con un discorso sull'ecologia, e che la transizione ecologica non sarà mai digitale e non potrà mai farsi rimanendo nel sistema capitalista. Sono stata molto breve, ma era molto importante per noi essere qua oggi in Italia perché, come l'ho detto, la ST è una multinazionale franco-italiana e attualmente c'è un ampliamento enorme che sta occorrendo a Catania in Sicilia. Sapete che a Catania e in Sicilia in generale c'è un problema enorme con la siccità e pensiamo da noi che ci sono lotte da condurre dappertutto, sia in Francia sia in Italia, perché infatti il capitalismo, il tecnocapitalismo non ha frontiere e dappertutto va combattuto. E solo per darvi un'idea di dove vanno questi chip che sono prodotti dalla ST, i principali clienti sono Tesla, SpaceX, Starlink, i satelliti di Elon Musk, Apple, questi sono i principali clienti. E c'è anche una parte della produzione che spesso va nascosta, ma che è essenziale, l'utilizzo dei chip per l'industria della guerra. L'anno scorso hanno ritrovato nei droni russi utilizzati in Ucraina dei chip della ST, che non aveva neanche, ma la ST ha venduto dei chip alla Russia senza rispettare l'embargo, e dappertutto anche a Gaza si ritrova dei chip di queste industrie di merda che vanno combattute.
Ecco, tous, bonjour à toutes. Je vais me présenter rapidement, je suis Julien, je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bastille Merci, qui s'est créé en Deux-Sèvres en 2017.
Buonasera a tutti e tutte, io mi chiamo Giuliana e faccio parte, sono il portavoce del collettivo Cittadina di Bassino Merci, si è formato nel 2017.
E je vais assez rapidement vous parler du territoire d'où je viens, puisque ce territoire a été le premier territoire en France où les premières méga bassines ont vu le jour, et il y a de ça maintenant presque 15 ans. Je viens d'un territoire qui s'appelle le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin, c'est la deuxième zone humide de France. C'est un très grand marais, c'est une espèce de lagune immense qui, jusqu'aux alentours de l'an 1000, rentrait près de 100 km dans les terres et qui, depuis 1000 ans, a fait l'objet d'un aménagement hydro-agricole qui avait jusqu'à maintenant su ménager les différents enjeux, à savoir gagner des terres de culture, tout en permettant à ce que ce soit un territoire qui reste viable pour l'ensemble des êtres vivants de ce territoire. Je viens parler des humains et des non-humains.
Ecco, appunto, vi parlo del territorio da cui provengo, che è Marais Poitevin, dove appunto l'estrattivismo si sviluppa, ecco, e si manifesta attraverso lo sfruttamento dei terreni agricoli e la mala gestione dei terreni agricoli.
Pour vous présenter un petit peu ce territoire, c'est une vaste cuvette qui récupère l'eau de près de 600 000 hectares, qui fait 100 000 hectares, et où tout est situé entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est donc à la fois une zone qui va présenter un grand intérêt du point de vue de la biodiversité, puisque c'est une des principales haltes de migration de tout un tas d'oiseaux en Europe, et à la fois comme c'est un territoire qui reçoit tous les sédiments et toute la richesse de sol de tous les bassins versants, c'est aussi un territoire qui a un haut potentiel sur le plan agronomique.
E quindi appunto questo territorio dal punto di vista diciamo idrogeologico ve lo descrivo, appunto è una zona di 5.000 ettari che è appunto molto, molto bassa sul livello del mare, quindi recupera moltissima acqua e rappresenta un'oasi di biodiversità, per esempio appunto ospita moltissimi iridi, moltissimi uccelli migratori. E poi rappresenta una grandissima ricchezza del suolo, perché appunto raccoglie tutti i sedimenti dei bacini versanti.
Pour vous présenter ce territoire, il faut imaginer pour les deux tiers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'image qu'on peut se faire de la Hollande, des grands espaces, des grandes cultures avec aujourd'hui beaucoup de céréales, et puis un tiers de cette surface qui est un véritable labyrinthe aquatique avec des arbres magnifiques, avec tout un quadrillage, avec traditionnellement une activité basée sur le maraîchage et sur l'élevage. Et comme c'est un très beau territoire, depuis les années 50, en fait depuis les congés payés, et en fait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un haut lieu du tourisme. Et c'est pour ça que ce territoire, aujourd'hui, est encore appelé la Venise verte.
per l'agricoltura e per l'allevamento, e che poi a seguito degli anni 50 sono anche diventati una meta turistica per questa bellezza, ed è questo anche uno dei motivi per cui è stata chiamata la Venezia Verde.
Territoire qui a d'abord fait l'objet d'une gestion très fine qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a pu venir voir les dernières étapes dans le Val de Suse avec tous ces aménagements par terrasse, enfin, un aménagement hydroélectrique très fin, donc une très grande connaissance du territoire et où en réalité ben, depuis maintenant les années 70 ce territoire est complètement déséquilibré et en grande partie déséquilibré par rapport à une plante qui est devenue un petit peu l'or jaune de notre territoire. Qui est le maïs qu'on a pu également voir lors de notre traversée de la vallée du Pô et qui a pris toute la place. Et ce maïs qui, chez vous comme chez nous, représente un très très gros désavantage au plan agronomique, une vraie grosse difficulté, c'est que son pic de consommation d'eau est en juillet août, au moment où l'eau est la plus rare. Et par conséquent, depuis que le maïs s'est développé sur ce marais poitevin, depuis les années 70, on a une véritable déstructuration et on a des sécheresses récurrentes sur ce territoire qui, comme je vous l'ai dit, à la base, c'était la deuxième zone humide de France et où toute l'histoire du territoire, ça a d'abord été de lutter pour assécher les territoires. Et aujourd'hui, de manière chronique, on a des sécheresses qui arrivent chaque année systématiquement et avec tous les effets que ça peut avoir sur l'ensemble du vivant et l'ensemble des activités qui sont autres que les activités d'agro-industrie.
E quindi appunto all'inizio, ancora diciamo prima degli anni 80, questo territorio è stato caratterizzato da una gestione molto sapiente che ci ha fatto pensare quando appunto siamo passati per la Val di Susa a delle connessioni, appunto una gestione molto sapiente diciamo caratterizzata dalla conoscenza del territorio. Poi appunto da partire dagli anni 80 c'è stato un grandissimo squilibrio che è stato portato dalle grandi coltivazioni di mais. L'abbiamo visto anche tra l'altro attraversando la Valle del Po, come questa coltura abbia distrutto l'intero paesaggio e appunto questo mette in relazione il mio territorio con il vostro. E appunto le coltivazioni di mais sono incredibili, hanno bisogno di moltissima acqua e appunto adesso nel nostro territorio ci troviamo a lottare costantemente contro la siccità cronica. E quindi questo ha un impatto sia appunto ambientale su tutti gli esseri viventi che popolano questo territorio, ma allo stesso tempo sulle attività umane.
À tel point que des associations de protection de l'environnement, dans les années 90, ont multiplié les recours pour faire reconnaître au niveau européen qu'en fait, spécifiquement, sur le cas du marais poitevin, la France ne tenait pas ses engagements européens en termes de protection de la biodiversité, notamment sur la directive visant à protéger les oiseaux migrateurs et sur la directive visant à protéger les milieux naturels dans leur diversité, notamment les zones humides. Et à tel point que la France a été condamnée par la Cour européenne de justice pour non-respect de ses directives. Et ça a mis un spell, un foin, ça a créé beaucoup de conséquences derrière ça. La France a été condamnée et devait payer une très forte amende. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'époque a trouvé une solution extraordinaire qui leur a été vendue par les tenants de l'agro-industrie. Et cette solution, c'était la méga bassine.
E quindi appunto la distruzione era così evidente che negli anni 90 le associazioni di protezione ambientale hanno iniziato una causa contro lo Stato francese e hanno diciamo, spinto molto per la protezione delle zone umide, per la protezione degli uccelli migratori, e appunto questa causa è stata vinta e la Corte Europea di Giustizia ha condannato la Francia per appunto questo comportamento e l'attacco alle zone protette. Però quali sono state le conseguenze di questa sentenza? Sono state che lo Stato francese ha cercato una soluzione, ovviamente non è stata una soluzione che mettesse veramente in dubbio il sistema agricolo intensivo, ma appunto ha pensato ai mega vaccini.
En voyant le thème de ce soir, je me suis aperçu qu'en fait, chez nous, le thème d'extractivisme, c'était pas un terme qu'on utilisait. On a cette représentation, en tout cas j'ai celle-ci, que l'extractivisme, ça concerne plutôt des logiques prédatrices de pays du Nord vers des pays du Sud. Je sais que dans votre pays, entre le Nord et le Sud, il y a ces logiques-là qui s'appliquent. Et finalement, le fait de poser ce mot-là et d'y réfléchir un petit peu, oui, très clairement, ces méga-bassines correspondent à de l'extractivisme. Elles correspondent à de l'extractivisme déjà par les méthodes qui sont utilisées. Ce sont de très lourds travaux, ce sont des millions de mètres cubes qui vont être brassés. Grosso modo, une méga-bassine, c'est un cratère creusé dans le sol, dans une roche dure, une roche calcaire, jusqu'à 15 mètres de profondeur, sur des surfaces qui peuvent atteindre 20 hectares. Et tout ce qui est retiré, excavé, est ensuite disposé en digues tout autour avec des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut. Or, notre territoire n'est pas étanche, le calcaire est poreux, et par conséquent, si le but est de capter et de voler de l'eau, d'accaparer de l'eau, il faut étanchéifier avec du plastique. Donc les bassines, c'est aussi des millions de mètres carrés de plastique qui sont posés et qui artificialise complètement, qui stérilise de manière irrémédiable des terres agricoles fertiles. Donc, premier élément qui va dans le sens de l'extractivisme, la méthode et technique utilisée. Deuxième élément, c'est les logiques politiques qui aboutissent à la construction de ces méga-bassines. Ou très clairement, de la même manière que des industries minières vont aller piller des ressources à l'autre bout de la planète, là encore, on a des pouvoirs centraux et des lobbies qui font ces équipements payés par de l'argent public et sans aucune prise en compte de l'impact sur la population et sur l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur ces territoires.
Quindi appunto vedendo anche un pochino il tema del dibattito, appunto si parla di estrattivismo, siamo abituati e abituate a pensare che l'estrattivismo riguardi soltanto le dinamiche tra nord e sud globale, come vengono chiamati, ma invece vediamo come l'estrattivismo, il paradigma dell'estrattivismo sia assolutamente calzante anche all'interno del contesto europeo e all'interno del contesto francese. E questa cosa si può comprendere sia dal punto di vista dei metodi che dal punto di vista delle logiche politiche che si nascondono dietro a come si articola l'agire. Ecco, quindi appunto parlando dei metodi, che cosa sono i mega vaccini? Sono dei crateri di milioni di metri cubi che arrivano a 15 metri di profondità e che arrivano a 10 metri di altezza, diciamo, al di sopra del livello del terreno e che possono estendersi anche per 20 ettari. Questi crateri vengono fatti però su della roccia calcarea e quindi la roccia calcarea è porosa, quindi per fare in modo di raccogliere l'acqua dentro questi mega buchi devono essere foderati di plastica, quindi ancora abbiamo centinaia e centinaia e centinaia di metri quadrati di plastica che viene prodotta per impedire all'acqua sostanzialmente di ritornare al suolo. E allo stesso tempo poi appunto guardiamo alle logiche politiche e quindi nello stesso modo in cui un'azienda mineraria estrae appunto le risorse dal terreno e distruggendo appunto scavando e distruggendo allo stesso modo questo viene fatto per il megabacino.
Troisième élément qui vient renforcer cette idée d'extractivisme, en fait c'est l'extraction à proprement parler, le pillage des nappes phréatiques, parce que contrairement à ce que les porteurs de projets de gouvernement ont beaucoup longtemps voulu faire croire, y compris par des ministres qui disaient que les bassines étaient remplies par l'eau puits qui tombait dedans, c'est absolument faux. Ces bassines elles sont remplies par extraction de l'eau des nappes phréatiques. Cette eau des nappes phréatiques, c'est le sang de la terre. Et si on extrait ce sang de la terre, bah c'est l'ensemble du système hydraulique et du cycle de l'eau qu'on remet complètement en cause. Et c'est cette zone humide si riche et gagnante qu'est le marais Poitevin qui se retrouve complètement pillée, complètement déstructurée et où la biodiversité est en train de s'écrouler à vitesse grand V. Vous avez vu qu'on est arrivé avec ce convoi, avec une barque qui arrive de ce marais Poitevin et qu'on espère pouvoir naviguer sur la lagune de Venise dans les heures qui viennent. Également dans les symboles de ce convoi, il y a cette anguille qui tire la langue, cette anguille tout asséchée, qui vient symboliser l'impact sur la biodiversité.
Il terzo elemento che appunto ci fa riflettere e ci fa pensare alle esperienze di megabacini come attivismo è la distruzione e il saccheggio delle falde acquifere, perché appunto il presidente Macron dice che i megabacini verranno riempiti con l'acqua piovana, ma questo non è assolutamente vero, non sei in grado di raggiungere le quantità necessarie soltanto con l'acqua piovana. Ma quindi appunto questa verrà prelevata dalle falde acquifere, quindi appunto saccheggiando l'acqua che dovrebbe essere bevuta dalle persone oppure dovrebbe essere utilizzata per evitare il campo, quindi appunto questo spirito che abbiamo fatto questa traversata per venire la Venezia nel mare Poitevin con anche insomma territorio veneto, la Venezia delle Venezie.
Thank you. atelier de disposition, un tableau rouge sur train grande vitesse et la mobilité militaire, guerre et information, des points de vue dominants et les narrations niées. Un autre qui s'appelle manifester droit inaliénable et instrument de changement. Ensuite, à 17h, nous avons la manifestation. À 20h30, nous avons un débat sur la guerre au-delà de la géopolitique, crise économique et capitalisme. Et ensuite, c'est la soirée. Voilà.
Merci. Ta 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 ta,
si le Marais Poitevin est la Venise verte, Venise est sans doute le Poitou bleu.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En arrivant à la bassine, c'est là où on voit que tout explose. Que ça pète déjà avant qu'on arrive. On est un des derniers cortèges à arriver, et là je vois un mec qui a le visage ensanglanté, je vois que ça court de partout. Et j'avoue, moi j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. C'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. J'ai des potes qui prennent du blé et qui viennent tasser les lacrymos. Ils ont déjà des prises d'initiative que je n'ai pas. Donc j'ai marché un peu autour, mais un peu loin, et tout en me disant, mais en fait, à tout moment, je me prends quelque chose.
Sainte-Soline, 25 mars 2023.
3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, un positionnement infranchissable de camions de gendarmerie et de barbelés autour de la méga bassine, transformée en forteresse, l'utilisation de plus de 5000 grenades, dont des centaines explosives et mutilantes, contre les manifestantes et manifestants en moins de 2 heures. 5000 grenades en 2 heures, il y a clairement des moyens militaires, avec un coût exorbitant pour l'État, pour les contribuables. C'est pas la guerre, mais ça commence à y ressembler en fait, sur certains aspects.
Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. On va aujourd'hui encore revenir sur la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Cette manifestation contre les méga-bassines et leur monde mortifère, on en reparle avec les sociologues Hélène Stevens et Gwendal Roblin du collectif du Loriot, deux des auteuristes de ce bouquin intitulé « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », publié aux éditions La Dispute. La rencontre qui suit date de juin 2024, avant le village de l'eau organisé en juillet par Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre. Un événement extraordinaire, j'oserais même dire historique, sur lequel on va bientôt passer plusieurs émissions pour vous raconter ce qui s'y est passé. Mais en préambule, et aux origines de cette série à venir sur le village de l'eau, il semblait intéressant de revenir sur les traumatismes de Sainte-Soline, car au lieu de décapiter le soulèvement en réprimant à Sainte-Soline, le pouvoir a bien au contraire renforcé la cohésion du mouvement, comme on le verra au village de l'eau. Mais pour l'heure donc, ouverture de la rencontre avec nos sociologues, avec Nicolas, de la librairie Les Temps Sauvages, à Tours.
Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux d'accueillir ce soir deux membres du collectif du Loriot, Gwendal Roblin et Hélène Stevens, qui ont donc participé à l'écriture du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » publié aux éditions La Dispute, un livre qui revient sur la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines, une mobilisation qui avait été appelée par notamment les Soulèvements de la Terre, mais aussi le collectif Bassine Non Merci. Je commence juste par signaler que les éditions La Dispute ont lancé une cagnotte parce qu'elles traversent des difficultés financières importantes. Vous pouvez acheter leurs livres pour les soutenir, vous pouvez leur envoyer plein d'amour. C'est une maison d'édition avec laquelle on a beaucoup collaboré ces deux dernières années pour l'organisation de rencontres. qui fait un travail très utile pour la diffusion de sciences sociales engagées.
C'est vraiment chouette d'être là, merci. Pour rappeler un petit peu la jeunesse du livre, la jeunesse, c'est d'abord reparler du contexte. On est en mars 2023, le contexte en France, souvenez-vous, c'est marqué par les mobilisations contre la réforme des retraites. Et nous, à l'université, on est mobilisés contre cette réforme. Donc on est dans des sociabilités militantes, des échanges assez nouveaux parce qu'on sortait de 2 ans de confinement, souvenez-vous aussi. C'était reparti depuis le 22, mais globalement, il n'y avait pas eu depuis cette période-là, il n'y avait pas eu de mobilisation sociale très forte, et particulièrement l'université. Si je raconte tout ça, c'est qu'en fait, c'est un peu le point de départ du livre. Ça a été un déclencheur, c'est-à-dire qu'en fait, on a à ce moment-là eu beaucoup d'échanges assez nourris avec un certain nombre d'étudiants qui étaient engagés dans cette mobilisation. Et puis est arrivé ce week-end du 25-26 mars, qui à Poitiers et dans la région Poitou-Charentes venait après une succession de mobilisations contre les méga-bassines, une mobilisation qui montait en puissance et qui en plus dans ce contexte de mobilisation sociale contre la réforme des retraites promettait d'être particulièrement nourrie en termes de participation. Voilà, Gondal et l'ensemble des membres du collectif Lorio. On était dans ces mobilisations sociales, écologistes, et on était donc à Sainte-Soline. On a été à Sainte-Soline le samedi 25 mars, ou la veille pour certains. Dès le soir même, on avait non seulement des messages de nos proches, de nos amis, pour savoir si on allait bien, mais on avait aussi sur nos boucles militantes un certain nombre d'étudiants, d'étudiantes qui demandaient si tout le monde allait bien, essayer de se rassurer, de prendre des nouvelles. Dès le lendemain, on a fait la proposition en fait, de se retrouver à l'université pour parler de ce qu'on avait vécu à Sainte-Soline. Donc ça a commencé comme ça, c'est-à-dire une première rencontre avec une vingtaine d'étudiants, quelques collègues qui étaient à Sainte-Soline et qui avaient vraiment besoin d'exprimer ce qui s'était passé. Essentiellement la répression policière, confrontation à la violence, la confrontation aux blessés. Puis il y avait, dans tous les témoignages, on a fait un long tour de table, ça a duré 3 heures, 4 heures. Aussi, il y a eu le sentiment qu'il y avait un deuxième niveau de violence qui avait été vécu collectivement, qui était en fait le moment où, quand on rentre chez soi, que ce soit dans la voiture ou que ce soit quand on arrive chez soi, d'allumer la radio, la télé, de regarder le traitement médiatique de ce qui avait été vécu dans la journée. Là où il y a eu une sorte de violence symbolique qui a été ressentie, c'était de se dire on n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu la même chose, on a vécu ça, mais c'est complètement caricaturé. On n'est pas ce que disent les journalistes de nous. On n'est pas allé à Sainte-Soline avec l'intention de tuer des policiers, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des ultra-gauchistes, ou en tout cas il y avait cette révolte en fait d'être si caricaturé, et aussi que Sainte-Soline soit réduit en fait à ce moment de violence. Donc assez rapidement, au cours de ce débriefing, a émergé l'idée qu'il fallait qu'on se réapproprie le récit qui avait été fait de cette journée, et qu'on fasse notre propre récit, ce qu'on a appelé ensuite un contre-récit, de ce traitement médiatique dominant, avant que d'autres médias alternatifs ou prennent aussi le relais pour essayer de rétablir la vérité. C'est parti de là, de ces étudiants et de nous qui voulions raconter Sainte-Soline autrement que ce que ça avait raconté. Et puis, fin mars, début avril, les étudiants commencent aussi à reprendre un peu, à essayer de récupérer les cours qu'ils ont ratés, à essayer de préparer leurs examens. Donc de moins en moins, les étudiants sont là à des moments où on s'était donné rendez-vous. Et on se dit, c'est un peu bête, c'est dommage qu'on ne saisisse pas cette occasion quand même pour documenter, pour faire ce contre-récit. Parce que dans les luttes, souvent, on est tout militant, militante qu'on est, on essaie d'avancer et on prend peu le temps de s'arrêter, d'essayer de raconter ce qu'on a vécu. On avait tous le sentiment quand même d'avoir vécu un événement assez fort. Donc on s'est dit, pourquoi pas un livre ? Étienne et moi, on fait partie des éditions La Dispute. Donc on a proposé un projet de livre avec cette idée d'un collectif de chercheurs. Voilà, on s'est retrouvés en fait à 6 enseignants-chercheurs, 5 sociologues, puis une collègue géographe sociale de l'Université de Poitiers, à construire ce livre, à penser ce livre. Donc nous, ce qu'on avait envie c'était de rendre visible tout ce qui avait été rendu invisible par le traitement médiatique, de donner à voir la diversité des personnes qui étaient présentes, et pas uniquement cette espèce de caricature d'un militant violent qui serait venu en découdre avec les forces de l'ordre.
et tout casser au passage. On avait envie donc de montrer cette diversité donc qui avait été niée. On avait envie aussi de rappeler quand même les causes, les raisons pour lesquelles des dizaines de milliers de personnes se retrouvent dans la boue, sous la pluie, à camper dans un endroit sans doute où ils ne seraient jamais allés sinon. Et puis on avait aussi envie de rendre visible tout ce qui s'était passé en dehors de ces 2 heures de violence, c'est-à-dire aussi de rendre compte de ces grands cortèges en pleine campagne, des cortèges très joyeux, très colorés, de rendre compte des débats avant, de tout aussi le travail militant en amont qui avait été fait pour préparer ces journées-là, de parler aussi de tout ce qui s'est passé dans ce qui est appelé la base arrière, donc de rendre visible en fait tout ce qui est invisibilisé par les traitements médiatiques, mais aussi peut-être plus largement parfois par un regard ordinaire. Et on avait ce sentiment d'urgence en fait, de dire il faut vite qu'on fasse quelque chose vite parce que sinon en fait tout le monde va partir dans ses activités et on va peut-être perdre quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Il fallait donc trouver un angle parce qu'on ne pouvait pas être exhaustif et tout restituer. On a souhaité particulièrement s'intéresser à la jeune génération qui était présente à Sainte-Soline, d'où ce avoir 20 ans à Sainte-Soline, parce que d'abord, comme beaucoup de gens, on est attristés, atterrés de cette rengaine permanente sur les jeunes. Chaque génération a eu son lot de « les jeunes sont pas assez » ou « sont trop ». Donc là, on ne sait pas, ils sont trop dépressifs ou ils sont trop radicaux, mais enfin, ils sont jamais comme il faut. Donc on avait un petit peu envie, d'une part, de casser ces stéréotypes. Le point de départ, c'était les étudiants, notre rapport avec eux. Donc on était en contact avec cette jeunesse, donc on avait aussi envie, justement, de leur rendre aussi cet hommage. Et puis, en sociologue aussi, on avait quand même quelques hypothèses. On n'était pas uniquement dans un contre-récit. On se disait, mais voilà, de quelle manière Sainte-Soline, ça peut être pensé comme un événement socialisateur, ou en tout cas un événement biographique qui va marquer une trajectoire, qui va faire peut-être qu'on va bifurquer, ou on va changer notre rapport au monde, ou on va... Et on se disait que voilà, cet âge, qu'on appelle parfois l'âge des possibles, même si en tant que sociologue, on sait à quel point on est aussi marqué par nos déterminismes, mais cet âge des possibles, où les bifurcations sont peut-être plus possibles que quand on a 30, 40 ans, un emprunt, des enfants, ou je ne sais quoi. En tout cas, de quelle manière Sainte-Soline a pu être un événement où on a appris, on a été en contact avec d'autres, on a observé un certain nombre de choses, expérimenté un certain nombre de choses, éprouvé. Voilà, de quelle manière ça peut aussi conduire à des bifurcations, ou en tout cas des réflexions sur son avenir.
En fait, c'est un ouvrage qui est très riche, puisqu'il y a en fait une trentaine de contributions. Il y a ce qui est le cœur de l'ouvrage, qui consiste en des portraits de manifestants à Sainte-Soline, de 17 à 29 ans. Ce cœur d'ouvrage, en fait, il était vraiment pensé pour laisser la parole littéralement à cette population dont on parle souvent, en fait qu'on écoute rarement et à qui on tend rarement un micro. Donc, une introduction où on fixe un peu les propriétés sociales de la personne, sa trajectoire, des éléments de parcours. Après, c'est des verbatim en fait. On pose une question et vous avez de façon assez brute les réponses. On a essayé de laisser un matériel assez brut aussi qui rend bien compte en fait. Il n'y a pas tant d'analyse que ça. Déjà parce qu'en fait, il y avait un enjeu de le publier en un an. Voilà, on sait que la sociologie, on n'est pas très bon pour faire des choses dans le feu de l'actualité. C'est à la fois un parti pris et rendre compte dans l'urgence de ce qui s'est passé, mais aussi laisser des traces brutes qui pourront resservir, en fait, qui documentent aussi les luttes. Ce qu'on a essayé de faire, c'est donc pas une exhaustivité, mais plutôt de balayer une diversité de profils, de personnes, de milieux sociaux. Par exemple, Anaëlle, qui est une ancienne maraîchère du département. On a Laura, qui est sous deux intérimaires. Elliot, qui est sans compagnon, mais qui est sans papier. Mathis, qui est lycéen. Et Yaël, qui est artiste. Ou encore Simon, qui lui exerce comme assistant d'éducation. S'en tenir juste à ces portraits, c'était sans doute pas suffisant pour saisir un peu la question à la fois des méga-bassines, il y a des enjeux assez techniques mais, et politiques qui recouvrent ça, et puis on n'avait pas réussi à saisir non plus les enjeux de transmission quoi, entre les différentes générations militantes. Et donc on a fait appel à différents textes d'intervention de personnes qui ont à voir de près ou de loin avec Sainte-Soline, et donc qui servent en fait à croiser ces portraits. Et donc on a des textes à la fois de chercheurs, bien sûr, donc des chercheurs en sciences sociales, mais aussi des chercheurs en sciences naturelles, comme Anne Morwen Passier, qui est chercheuse en sciences de la Terre, voilà, qui est aussi assez actif dans le mouvement, qui nous a fait un texte très très intéressant. Voilà, on a aussi un texte de Françoise Vergès, qui est militante décoloniale, voilà, une chercheuse qui dialogue en fait avec ces questions-là de transmission, d'enjeux de réappropriation. Florence Yadaden et Françoise Vergès font beaucoup le lien avec la colonisation, l'appropriation des ressources en fait. Et on a aussi croisé ça avec des textes d'artistes, comme un très beau texte de Corinne Morel-Darleux, qui est une écrivaine, Christian Paché, qui est un auteur, compositeur de Baltrade. On a aussi cherché à donner la parole aux organisateurs. Il y a des textes des représentants de la Confédération Paysanne, des membres de Bassine Non Merci, ou des Soulèvements de la Terre, qui aussi racontent ce qu'ils ont ressorti de cette expérience, et puis qu'est-ce qui se passe après, quoi. Parce que c'est aussi une question qu'on a demandé à ces jeunes qu'on a interrogés, c'est comment vous êtes venus à Sainte-Soline? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a changé? On a fait les entretiens entre, je sais pas, 2-3 mois et 6 mois après. Puis il y a aussi des témoignages qui nous semblaient nécessaires, comme celui d'Alix, qui était gravement blessé à Sainte-Soline, vous l'avez peut-être vu dans le reportage d'Off Investigation, mais aussi Capucine Blouet, qui est observatrice à la Ligue des Droits de l'Homme, en fait, qui était présente, qui elle aussi avait 20 ans à Sainte-Soline, et donc ça nous semblait très intéressant ce qu'elle nous donnait, voilà, de partir des manifestations parisiennes qu'elle observait depuis longtemps pour la LDH, à les pieds dans la gadoue, comme elle dit, dans un trou perdu des Deux-Sèvres, quoi. Bon, on a plusieurs autres textes, hein, je citerai seulement celui d'A-